Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end magnifique sur RMC. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission, vous le savez, le samedi, le dimanche de 9h à midi. Au sommaire aujourd'hui, le PSG qui retrouve les joies de la Ligue 1 aujourd'hui après les galères en Ligue des Champions. Faut-il être indulgent avec le Paris Saint-Germain? Ce sera notre première question. C'est la une des GG dans quelques instants. Après Yannick Sinner, c'est au tour d'Iga Swiatek, autre grand nom du tennis mondial, d'être contrôlé positive. Le tennis a-t-il un problème avec le dopage? Ce sera le bras de fer des GG à 10h. 11h, les équipes de France de foot et de rugby ont retrouvé leur public en ce mois de novembre et qui va s'achever demain. Retrouvailles contrastées pour les uns, euphoriques pour les autres. Le 15 de France peut-il prendre la place de l'équipe de France de foot? Nous nous poserons la question. On ouvre le débat à partir de 11h et évidemment pour chaque débat, on vous attend, chers auditeurs, au 32-16. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente immédiatement. Une grande gueule qui, comme Michel Barnier, n'est vraiment pas sûr de passer l'hiver. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ça fait des années qu'on dit ça.
Et, oui,
et au printemps, je suis toujours là.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu penses que ça sera pareil pour Michel Barnier?
Je pense qu'il va moins.
Non. Ça risque d'être plus difficile pour lui pour
un
toi.
Un peu moins longtemps, il va tenir un peu moins longtemps.
Ok, ça va, Christophe?
Oui, ça va, ça va. Tant que tu me censures pas, tout va bien.
Non, évidemment que non.
Même si tu fais l'émotion, mais bon.
Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Je n'ai pas assez de poids auprès de la direction. Une grande gueule qui, comme Michel Barnier, si ça continue, il va se faire dunker dessus. Hein. Fred Weiss, salut Fred.
Salut.
Ça va mon Fred?
Ça va très bien.
J'ai l'impression que ça fait une éternité que l'on ne t'a pas vu dans cette émission. Tu voulais plus venir?
Non, pas trop. Non. Mais Christophe m'a manqué au final et toi aussi, donc ouais.
Quand tu dis au final, c'est que.
Il a fallu du temps quand même que je m'en rende compte, mais à partir du moment où je m'en suis rendu compte, vous m'avez manqué.
Bon, on est très heureux de te retrouver, évidemment. Une grande gueule qui, comme Michel Barnier, on a déjà essayé de le censurer, ça c'est vrai. C'est Pascal Dupraz. Salut Pascal.
Bonjour Jean-Christophe, salut les amis.
Salut Pascal.
Salut.
Ça va mon Pascal?
Oui, ça va très bien. Content de vous retrouver, content de retrouver Christophe qui n'a pas l'air en forme ce matin.
Oh, tu vas voir si je suis pas en forme.
Ah si, il est là.
C'est vrai que c'est bon retrouvaille. Ce duo marche très bien dans cette émission.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas. Qu'on
s'est pas quitté. Et bah, tu sais quoi, tu auras une double ration de Pascal qui sera également avec nous demain.
Alors tu sais, on fait une petite mise en bouche avant l'émission pour savoir à qui va prendre quelle position. Moi j'adore quand Pascal fait un truc, je fais exactement le contraire.
Bah oui, j'avais pas remarqué.
Tu regardes même pas les sujets, tu dis je fais
Contraire de Pascal.
Tu as bien raison. Et puis une grande gueule qui, comme Michel Barnier, n'a jamais gagné Roland Garros. Julien Beneteau, salut Julien.
Tu savais pas quoi dire?
Ah oui, non,
tu savais pas quoi trouver parce que Michel Barnier, Roland Garros, je vois pas le rapport, mais vas-y. Il y a aucun problème, mais ça me fait plaisir.
Ça va, bon Julien?
Et contrairement à Michel Barnier, t'as dit quoi? C'était quoi ton lancement?
Qui, comme Michel Barnier, n'a jamais gagné Roland Garros.
Est-ce qu'il est faux? Parce que moi, je l'ai gagné Roland Garros.
Eh oui?
En double.
Et alors?
Oui, mais. Et voilà! En tant que journaliste sportif, tu dis oui, mais. C'est comme si tu disais à Pascal, t'as jamais été champion de France, mais t'as gagné la Coupe de France ou pas.
Ben, non, mais ça n'a rien à voir!
Ben, c'est pareil!
Mais non! Alors, attendez!
Tu foules du pied quand même cette institution.
Alors, c'est fou ça!
Je veux dire, t'as eu beaucoup quand même!
T'as voulu faire un lancement, il est très bourri!
Voilà! Il n'y a aucun problème!
Le goudron et les plumes, Jean-Christophe!
Avec grand plaisir! Ce sera pour quand? Non, pas là. On sera au RMC Sport Game la semaine prochaine et évidemment tu seras de la partie avec nous.
Avec Bennett. Tiens,
je crois qu'il doit être très bien skier.
Merci Christophe.
Ouais, ça m'étonne pas. De toute façon, Julien, les tennismen, je sais pas ce qu'ils ont. Dès qu'ils jouent au golf, ils jouent merveilleusement bien. Dès qu'ils sont sur des skis, ils ont de l'allure. Tu vois, j'aimerais bien être tennisman, mais c'est pas le cas.
Il y a un peu Denis Charvet qui est un peu comme ça.
Non.
Non, il est quand même doué ce con.
Oui. Mais il triche beaucoup. Bon, vous retrouverez Denis Charvet un petit peu plus tard. Ce sera dans les paris RMC. Les copains, très heureux donc d'être avec vous. Avec vous aussi les auditeurs, on va débuter cette émission avec cette citation que j'aime beaucoup d'Abel Bonnard qui a dit un jour, l'indulgence est la forme la plus polie du détachement.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
L'arbitre qui va siffler la fin du match, on en reste là sur ce score de 1-0 entre le Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven.
Non, c'est pas grave Pierre, je n'ai rien senti.
Correa, au deuxième. Le crochet, la frappe de Correa et le but. Oh, incroyable! Le but de l'Atlético!
Ça fait pas cette tête-là, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Hein.
C'est fini, c'est terminé! Victoire du Bayern Munich sur le score de 1-0. Défaite du Paris Saint-Germain ici à Munich. Une de plus, la troisième dans cette campagne européenne.
Oh, on va pouvoir en faire un fromage.
Oh, La Ligue 1 pour penser les bobos. Le PSG retrouve le championnat donc ce soir à 21h face à Nantes. Après ses déboires cette semaine en Ligue des Champions, les Parisiens totalement maîtres en leur pays. 6 points d'avance, 10 victoires, 2 nuls, 0 défaite après 12 journées, 3 buts marqués par rencontre. C'est tout le contraire, hein, vous le savez évidemment, sur la scène européenne. 25e sur 36, 3 défaites en 5 matchs, 0,6 buts marqués par match. Le spectre d'une élimination dès la phase de poule devient de plus en plus crédible. Ce n'est pas grave, tout l'état-major parisien réclame de la patience. La musique qui fout les jetons. Et cette question, faut-il être indulgent avec le PSG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Bah non, ça suffit l'indulgence.
Fred Weiss.
Oui, par opposition à Christophe, évidemment.
Évidemment. Pascal Duprat.
Non, mais ça sera pas le même nom que Christophe.
D'accord, même quand on répond comme Christophe, on n'est pas d'accord avec lui. J'ai bien compris le sentiment. Julien Beneteau.
Non, et ce sera un mélange des noms de Christophe et Pascal.
Ok, des nuances de gris, on aime ça. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur du Paris Saint-Germain, c'est Valentin Germain. Bonjour Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous.
Les supporters sont patients.
Oui, David et Odésio, deux amis, sont respectivement abonnés depuis 40 et 15 ans au Parc des Princes. Ils rêvent de dominer l'Europe, eux aussi, mais ils ne sont pas si pressés.
On a tout eu au PSG, de l'exigence de résultats rapides avec des stars. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une équipe qui est en train de se construire. On se demande s'il vaut mieux pas attendre pour avoir une équipe à la fois solide, soudée.
Ils sont donc sensibles au discours du président Nasser El Khelaïfi qui parle sans cesse de projets à moyen terme.
C'est ce qu'on a demandé, un coach fort qui travaille avec sa direction sportive, un président qui est peut-être un peu plus effacé, faire confiance à des joueurs talentueux, jeunes, se donner 2, 3, 4, 5 ans pour bien bosser comme l'ont fait d'autres clubs qui ont réussi ces dernières années.
Odésio prend l'exemple de Guardiola à Manchester City qui a remporté la Ligue des Champions 7 ans après son arrivée. Peu importe donc les plus de 600 millions d'euros dépensés en 2 ans par Paris, l'inefficacité ou le bilan de Luis Enrique qui est le pire en Ligue des Champions pour un entraîneur parisien depuis 2012.
Alors après, il peut se tromper. Il a ses idées, laissons-le. Point. Les résultats sont pas folichons, notamment en Coupe d'Europe. Mais si on marque les buts, on se raconte une toute autre histoire. Soyons patients, le foot, c'est pas une science exacte.
Moi, je trouverais que ça serait horrible de tout détricoter là, maintenant.
Les deux supporters estiment qu'ils ne sont pas une majorité à penser comme cela, mais on est tout de même loin de la grève des encouragements il y a 2 ans après l'élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et d'ailleurs, Luis Enrique remercie les fans.
No tengo nada que decir yo a mis aficionados.
Je n'ai rien à dire aux supporters, ils sont parmi les meilleurs au Parc des Prince, il n'y a pas un seul jour où ils nous ont sifflé. Ils ont toujours été parfaits. Ce que je peux garantir, c'est que les joueurs qui portent le maillot du PSG donnent tout sur le terrain, donc c'est difficile de les siffler. Si un joueur ne donne pas son maximum, il sort. Je peux juste dire merci aux supporters pour leur soutien.
Et le Paris Saint-Germain constate quand même que de plus en plus de sièges sont vides pendant les matchs, même s'ils sont annoncés à guichet fermé.
Merci beaucoup Valentin Germain pour toutes ces précisions. Faut-il être indulgent avec le PSG? Le 32-16 de l'hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Chris, pourquoi non?
J'ai écouté les supporters du PSG, ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment sympas, ils sont adorables. Ah, on va leur laisser comme ça 50 ans, c'est pas grave, on gagne pas, on s'en fiche. Du moment qu'on gagne le championnat, qu'on bat l'OM, ça nous suffit, quoi. Mais bon, la Ligue des Champions, on verra ça dans une cinquantaine d'années. C'est quand même hallucinant qu'ils aient cette patience comme ça, alors que ça fait des années quand même qu'ils marchent sur le championnat, qu'ils ont des budgets hallucinants, qu'ils ont eu les plus grandes stars de la terre qui sont venues dans le club parisien, qui changent de politique comme ça régulièrement, mais pour le même résultat finalement, c'est-à-dire oui, tu domines le championnat de France parce que évidemment il y a le niveau en face n'est pas du tout le même, les finances ne sont pas du tout les mêmes, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut encore être patient comme ça. Moi si j'étais supporter du PSG, ça fait bien longtemps que j'aurais quitté le club en disant c'est bon les gars, faites, moi je reviendrai un jour quand vous aurez gagné. Mais non, il reste là, c'est ça, c'est le fait d'être un bon supporter.
Voilà,
mais bon, à Marseille tu leur fais ça, tu fixes un objectif et tu l'atteins pas, tu te fais siffler dans les 3 matchs qui suivent. Non, mais là, ils acceptent que Luis Campos ait dépensé 600 millions d'euros, que Luis Enrique se gourre tactiquement à chaque match, que Donnarumma ou son remplaçant fasse des gourdes à chaque match, que aucun attaquant n'arrive à trouver à mettre un but en Ligue des Champions. Non, tout ça, un jour ça arrivera, c'est sympa, tout va bien.
Non, mais ils acceptent ou c'est du détachement?
Non, parce qu'ils sont, ils ont l'air motivés encore. Ils disent non, bah, faut leur laisser encore 4-5 ans, ça va finir par arriver. C'est la méthode
Coué. Une forme de résignation.
Et alors, le camp du oui, il faut
mais justement, les supporters, c'est l'exemple exact de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en gros, on a été dans le bling-bling, dans le on a envie de montrer, on a envie de faire un one-shot, ça n'a pas fonctionné. On a proposé un autre projet. Le club l'a annoncé dès le départ en disant on a un nouveau projet, on est sur une année de transition, on va y aller petit à petit, on va construire. Et ben moi je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Qui a gagné la Ligue des Champions sur un one shot? Peu. Mais c'est vrai que en travaillant bien,
quel
en construisant,
ça fait 12 ans,
ça fait 12 ans.
Oui, mais c'est tous les 12 ans, tu mets des stars, tu mets des mecs.
Oui, mais là, tu changes de politique tous les 2 ans.
Oui, mais t'as
eu la politique des stars internationales, la politique de la star française,
mais
t'as la politique des futures stars.
Il faut continuer sous prétexte que ça va pas marcher. On continue. Non, ils ont
arrêté
à 180 degrés. Ils tentent autre chose. Ils travaillent. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Ils tentent autre chose
et avancer tranquillement.
Tu sais bien qu'en foot, tu n'as pas 50 ans devant toi.
Mais après, j'ai un moyen terme, c'est intéressant. Moi, je pense qu'au contraire, construire, avancer petit à petit, ne pas se presser, ne pas se brûler les ailes, je pense que c'est une bonne idée.
Plutôt avancer,
que ce qui s'est passé jusque-là, avec toutes ces stars, où il s'est rien passé.
Peut-être, mais en commun, je suis pas d'accord avec toi. Il se passait des choses, il y avait une frisson.
En fait, c'est quoi? Oui, mais je suis d'accord. Quel était l'intérêt, vraiment la volonté du club? C'est champion de gagner la Champions League. Ça n'a pas été fait. Donc, tu changes de projet, tu essaies de construire sur le un peu plus long terme. Et en tant que supporter, moi je trouve ça très bien qu'on le comprenne. Et encore une fois, ça a été très bien communiqué.
Ok, Pascal veut répondre.
Ouais, je suis assez d'accord avec Fred, même si j'ai dit non. Non, parce qu'on ne doit pas être indulgent forcément avec le Paris Saint-Germain après ses résultats depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Mais on se doit d'être objectif. Et là où Fred a raison, c'est qu'il y a un changement de projet. Quoi qu'en dise Christophe, les stars, il n'y en a plus. Par contre, il y a malgré tout une constante au PSG, c'est qu'ils surpayent leurs joueurs.
Il devrait quand même un recrutement à 600 millions d'euros depuis que
c'est
arrivé.
Mais c'est parce qu'ils surpayent. Pour venir au PSG, ils les surpayent. Ils les surpayent pour venir au PSG. Ça, c'est une constante. Et ça situe, même si le PSG est budgétairement très solide en Europe, c'est pas encore un grand d'Europe parce que justement, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Si, laissez-moi terminer. Maintenant, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc arrêtez de dire que le Paris Saint-Germain est éliminé, parce que si j'écoute Christophe, ils sont éliminés. Il faut qu'ils gagnent 2 matchs pour se qualifier. Ils les gagneront. Oui. Regardez contre qui ils jouent, Manchester City, ils mettent pas un pied devant l'autre. Alors arrêtez vos conneries, franchement. Ça fait 5 matchs qu'ils perdent consécutivement. Un match nul 3-3 alors qu'ils gagnent 3-0. Donc, laissez faire le temps. À la fin du bal, on paye les musiciens. Là où je rejoins Fred, c'est que c'est un projet qui est mené par Luis Enrique, qui semble avoir la carrure, qui a peur de personne. Il est tellement, imbu de sa personne, qu'il parle même pas français au bout de 2 ans. Vous voyez, il parle espagnol parfaitement. Par contre, on a compris ça.
C'est la faute du PSG.
Il pourrait quand même respecter les supporters.
C'est la faute du club. Okay. Neymar l'a pas fait. Et la semaine dernière, il y a 2 jours, j'étais avec Karabatic. Il a signé à Kiel. Le premier truc que Kiel lui a exigé, alors que c'était le meilleur joueur du monde, c'était de parler allemand très vite. C'est le club qui doit.
Alors, je suis d'accord avec toi, le club doit imposer. C'est complètement vrai. Mais sauf que c'est pas ça qui va te faire gagner les matchs.
Mais ça, malgré tout, même si ça doit.
Il faudrait qu'il apprenne l'espéranto pour faire gagner le PSG.
Même si ça doit tendre à Doha, parce que nul doute que ça doit tendre. Les dirigeants du Qatar, ils doivent en avoir marre de ces résultats en Champions League. Cependant, Luis Enrique, il a la main. Donc, il travaille. Voilà. Et pour moi, je pointe juste 2 erreurs. On est au mois de décembre, bientôt, et il a mis le doute dans la tête des gardiens. Donc ça, pour un entraîneur, même un petit entraîneur comme moi, mettre la concurrence et le doute chez les gardiens alors que t'es à la mi-saison, c'est pas trop bon. Et puis après, il nous banane avec son poste d'avant-centre. On dit que Paris Saint-Germain, comme on ne marque pas de but en Champions League, bah il y a pas d'avant-centre. C'est normal qu'il marque pas de but. Il a Kolo Muani qui l'a validé pour 90 millions d'euros. Il le laisse tout le temps sur le banc. Bon, alors là, on pourrait peut-être taper sur Luis Enrique davantage que sur l'équipe.
Ok, c'est entendu.
Duprat à la tête du PSG, ça va envoyer ça.
Julien Benneteau.
Ouais, ça enverrait.
Il parle français en tous les cas.
Non, mais on peut pas être indulgent. On peut pas être indulgent avec le PSG. Ceux qui sont indulgents, je pense que tu as raison dans ton lancement, c'est que ça marque un désintérêt, un détachement. Et il y a certains supporters qui ont ça. Je suis allé voir un match au Parc des Princes contre le PSV Eindhoven.
j'ai été frappé, j'étais en tribune latérale, de l'autre côté, j'ai été frappé par le manque d'ambiance et le manque d'engouement, alors que c'est un match de Ligue des Champions, de la part des supporters. Ça, c'est peut-être pour ça que derrière, ils sont indulgents. Pourquoi on peut pas être indulgent avec eux? Ils ont l'attaque de l'équipe de France. Ils ont Marquinhos en défense centrale, qui est peut-être l'un des meilleurs à son poste, qui est capitaine de l'équipe du Brésil. Ils ont Hakimi, qui est l'un des meilleurs joueurs africains, un des meilleurs latéral droit. Ils ont quand même, sur le papier, une bonne équipe. Ils ont Luis Enrique, qui est soi-disant l'un des plus grands coachs.
Il a montré des choses quand même, Luis Enrique.
Souvent les entraîneurs avant de venir au PSG, ils gagnent tout, et après avoir quitté le PSG, ils gagnent tout, notamment au niveau européen.
Pour moi, effectivement, parce que ça permet effectivement de prouver que le moyen terme, c'est important.
On peut pas, et pourquoi on peut pas être indulgent quand Pascal dit qu'il y a pas que sur le, il y a pas d'attaquant, il y a, bah, alors, Luis Enrique se plante, qu'il y a plus de jeunes, il y a moins de stars, etc. Bah, vous prenez le banc, le titu, et l'équipe du PSG, quand ils jouent Arsenal. Vous allez me dire que Arsenal, sur le papier, c'est 100 fois plus fort poste par poste que le PSG. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Demandez à Arteta s'il voudrait pas avoir, l'effectif du PSG. Bah, il va pas changer.
Franchement, je suis pas des deux mains, là.
Non, peut-être pas des deux mains, mais il change pas 10 joueurs sur 11. Il change pas 10 joueurs sur 11. Et il y a pas une différence où à tel point que de prendre 4-0, l'Atlético de Madrid, c'est pareil, ils sont moins forts que le PSG sur le papier.
Donc,
non.
Vu l'équipe, il faut pas être indulgent.
Mais bien sûr qu'il faut pas être indulgent. J'ai dit non, on peut pas être indulgent avec le PSG. Ils sont 26e de Ligue des Champions. Ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'ils vont se qualifier sans problème. Mais c'est n'importe quoi. C'est
sans problème. Quoi. Il reste 3 matchs.
Ils vont se qualifier juste City. Hein.
Oui, juste. Mais c'est
Stuttgart
et Salzbourg. Ils ont pris 5 contre l'Étoile Rouge.
Quand tu vois qu'ils gagnent 1-0 face à Gironde à la dernière seconde, tu peux pas dire que face à Stuttgart là-bas en Allemagne, ça va être
moi,
plus
j'en reviens. Il domine le championnat, etc. Mais c'est toujours la même chose. Et il y a toujours le même problème avec le PSG, quel que soit le projet, les stars, pas les stars, etc. C'est qu'en championnat, ils jouent en marchant. Ça suffit, ils gagnent 3-0, 4-0. Jouez à fond pendant 75 minutes, gagnez 6-0, et vous aurez l'habitude de jouer avec une vraie intensité pour la Ligue des Champions.
Eh bien, les copains, on poursuit le débat. Vous avez encore pas mal de choses à nous dire. On vous attend, supporters parisiens, au 32-16. Faut-il être indulgent avec le PSG? À tout de suite sur RMC.
Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va voir ensemble.
Les grandes gueules du sport.
Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment.
9h midi.
On n'a besoin que de nous pour se maintenir. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, ouvrez les oreilles. Si vous aimez les causeries de Pascal Duprat, si vous êtes nostalgique, eh bien, il faut écouter RMC, il faut écouter les grandes gueules du sport, parce que Pascal nous régale, évidemment, à chaque émission.
On devrait, comme ça, plutôt que ta présentation, qu'il nous fasse une petite, une causerie tous les matins avant de débuter l'émission.
Toi, j'aimerais te bousculer dessus, si tu savais comme j'aimerais te bousculer tous les matins. À chaque fois que j'arrive dans le studio, t'es avec ton croissant ou ton pain au chocolat. Je te promets que je voudrais bien te bousculer.
Tiens. Non, moi, j'aimerais bien que Pascal
vienne te bousculer.
Fred, par contre, je voudrais bien te câliner, toi.
Ah, et j'ai Julien qui avait une demande. Il aimerait bien que tu arrives dans le vestiaire des filles là pour une petite causerie.
Une bonne causerie comme tu sais faire, ça pourrait pas faire mal.
On va instaurer un jour une causerie de Pascal Duprat dans l'émission.
On a plein de coachs ici qui servent à quelque chose, qui montrent un peu ce que ça donne quoi, sur le terrain, parce que là, ils sont gentils avec leurs arguments là. Mais on veut du concret, quoi. Okay. Un peu comme avec le PSG, on veut que vous nous bougiez, les gars.
Parfait. Transition parfaite. Faut-il être indulgent avec le Paris Saint-Germain? On se pose la question depuis 9h ce matin. Anis nous appelle au 32-16, supporter parisien. Bonjour Anis.
Bonjour à tous, comment allez-vous messieurs?
Ben, on va très bien, et toi? Est-ce qu'il faut être indulgent alors Anis?
Non, faut pas être indulgent. Paris aujourd'hui se veut être un gros club depuis de nombreuses années. Bien évidemment qu'il faut pas être indulgent. Maintenant, il faut juste comprendre que depuis ces deux dernières années, on nous vend un projet qui est différent et qui est nouveau. Et qu'il faut attendre. Et pourquoi il faut attendre? Ben parce qu'on a vu avec Zlatan que ça n'a pas marché, avec Messi, avec Neymar que ça n'a pas marché. Donc pourquoi pas aujourd'hui se dire on va essayer avec un coach qui ramène des bases qui sont différentes, avec un effectif effectivement un petit peu plus jeune. Je ne sais pas, créer peut-être, pourquoi pas aussi nos propres stars. Ça se tient en soi, ça se tient. Maintenant, effectivement, non, on ne doit pas être indulgent parce que c'est eux qui l'ont décidé. Et parce que ce que Paris nous a fait aussi en Europe ces 5 dernières années, on ne peut pas aujourd'hui se faire sortir lamentablement comme ça, en plus avec un nouveau, comme par hasard, avec un nouveau format qui arrive et c'est nous qui allons pâtir. Ça, je dis non. Mais effectivement, non, on ne doit pas être indulgent.
Est-ce que
mais
tout de même, Yanis, Anis, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent cette année, bon, si c'est mal embarqué en Ligue des Champions, si on ne se qualifie pas, bon, bah, on verra l'année prochaine. Ou non, c'est une cata.
C'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, moi, ce qui ne m'inquiète pas, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'alarmisme. Moi, ce qui m'inquiète pas, c'est que il y a du jeu. Il y a quelque chose dans cette équipe. Si demain on avait une équipe, effectivement, ben, il y a personne qui court. Il n'y a pas Dieu. Techniquement, c'est moche à voir. Bon, là, ce serait compliqué. Là, ce qui est le plus frustrant, ce qui est horrible à voir, c'est que le gars, il se crée des occasions, ça joue, ça court. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, on citait Hakimi, Dembélé, même s'il est, il est horrible, mon Dieu, mais il, c'est terrible de suivre ce joueur. Le gars, il te fait des trucs incroyables et arrivé dans les derniers instants où c'est là qu'il faut marquer, il dévisse comme un U11. Et ça, c'est terrible. Mais ce qui est inquiétant, c'est ça, en fait, c'est de pas marquer. Alors, avec des tirs, on fait le monde. Mais effectivement, aujourd'hui, si on les avait mis tout au fond, et on serait peut-être dans le top 3.
Ah bah justement, Anis, ah bah justement, tu as le même discours que Luis Enrique hier en conférence
voilà,
de presse.
Anis, tu vas pouvoir le remplacer.
On va justement l'écouter, Luis Enrique.
Me siento super confiado.
Je me sens super confiant. La qualification en Ligue des Champions n'est pas encore là, mais on ne mérite pas notre classement. On devrait avoir au moins 9 points. J'ai aimé ce que j'ai vu contre Munich, même si c'est évident que ça n'a pas été suffisant pour faire un résultat. On va continuer d'être compétitif. Il faut qu'on s'améliore dans beaucoup d'aspects, mais je suis très optimiste.
Les fameux expected goals.
Pascal, on a besoin de toi là, en tant qu'entraîneur, ouais. En tant que communicant, t'arrives en conférence de presse, est-ce que tu comprends le discours là ?
Ouais, je comprends le discours, mais il a raison d'être optimiste, parce que rien n'est à jeter dans le jeu du Paris Saint-Germain. Si on compare à celui de l'année dernière, on voit que c'est une équipe qui joue. Il n'y a pas 9 joueurs qui courent après le ballon, puis un qui ou deux qui s'en fiche. Non, mais par contre, on se dit dès le Bayern de Munich contre le Bayern de Munich, dès les premières minutes, tu dis comment ils vont faire pour marquer un but. Voilà, cette question, cette constante, parce que bon, il est dans le jeu de possession, il va chercher haut, il offre des espaces à l'adversaire, et puis il marque pas parce que statistiquement, Dembélé, par exemple, même s'il a une bonne séquence à l'automne, bah Dembélé, c'est pas un buteur. Barcola, c'est un jeune joueur, et puis il y a pas d'avancante, je le répète. Donc il a malheureusement eu la malchance de perdre Gonzalo Ramos, qui revient, mais est-ce que ça sera suffisant? Je l'espère, parce que lui, c'est un buteur, et j'espère qu'il jouera avec un avancante surtout.
Oui, enfin, Colomoigny n'est pas meilleur parce qu'il est en numéro 9 que Kanglili, là.
Si, mais alors, c'est parce qu'il veut jouer avec un garçon qui tient le ballon. Et voilà, ils sont jamais dans l'attaque rapide, ou pas assez, à mon goût, dans l'attaque rapide, parce que c'est les préceptes de jeu de Luis Enrique. Puis il y a aussi une constante qui aujourd'hui, dans le foot moderne, est absente au Paris Saint-Germain. Ça manque d'impact physique au milieu de terrain, quand même. Voilà, donc, ça souffre, même si ce sont d'excellents joueurs et d'excellents manieurs de balle.
Oui, c'est pas la première fois qu'on parle, hein, d'ailleurs, de ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui affronte Nantes ce soir. C'est vrai que le PSG, on a envie d'être patient, ou en tout cas, c'est ce que l'état-major et les Parisiens et certains supporters parisiens demandent. Mais comment être patient en Ligue des Champions quand on a couru autant de temps et pour tenter de la gagner? Je rappelle que le prochain match, c'est sur la pelouse de Salzbourg. Ce sera donc le mardi 10 et ensuite, ce sera la réception de Manchester City. Est-ce que, comme Anis, toi qui demandes d'être indulgent, est-ce que tu dis quand même, si ça passe pas en Ligue des Champions, c'est problématique, Fred?
Alors bien sûr que c'est problématique, évidemment que c'est problématique, mais encore une fois, c'est loin d'être terminé, et je pense que ça devrait passer, mais Anis est d'accord avec moi. Est-ce qu'il est assez paradoxal, parce qu'il dit il faut pas être indulgent.
Tout le monde est d'accord avec toi, Fred. Tout le monde est d'accord.
C'est quand même assez surprenant, parce que justement je suis indulgent parce que je suis patient, parce que je sais que il faut construire, il faut avancer, faut créer cette osmose, et Anis est d'accord avec moi aussi, en disant c'est exactement ce que je demande à cette équipe. On est content, on voit des choses, c'est mieux, il y a du progrès. Il faut se rappeler quand même que c'est une année de transition. Mbappé était là, il n'est plus
comment
là.
Comment tu vends l'année de transition? Et Christophe l'a rappelé, quand tu es le deuxième club européen à avoir le plus dépensé au mercato. Mais c'est dur à vendre quand même.
Encore une fois, il y a des one shot.
J'annonce une année de transition, mais je dépense 600 millions d'euros. Enfin, je comprends que c'est compliqué.
Si celui qui dépense,
parce qu'il construit son effectif.
Ce serait très très simple, c'est pas comme ça. Il faut une construction. C'est pas aussi simple que ça de gagner une Ligue des Champions. Il n'y en a qu'un par an déjà. C'est exactement le même.
Je pense que tout le monde s'en est rendu compte.
Aussi simple que ça.
Mais là encore une fois, si vous voulez être objectif, c'est bien la saison. Vous les attendez moins en Europe.
Mais évidemment.
Par rapport aux dernières saisons, avec toutes les constellations de stars qu'ils avaient, on espérait que quand ils sur le terrain, vous aviez le cumul des talents, Mbappé, Messi, Neymar. On se disait le Paris Saint-Germain à la signature de Messi, Paris Saint-Germain cette fois-ci va gagner la Champions League. Donc cette saison, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, Nasser,
il faut marquer des différences. Il faut marquer des différences.
Mais si ce n'est remporter la Ligue des Champions, au moins moins procurer le frisson dans les travées du parc ou devant sa télé.
Christophe, moi, je suis peut-être désolé, que tu vas l'avoir au deuxième tour.
Ouais, mais peut-être.
Peut-être que tu vas l'avoir parce qu'encore une fois, le Paris Saint-Germain, je l'espère, tu l'espères, et je pense qu'ils ont la possibilité de se qualifier. Ensuite, ça va être comme un 16e de finale. Et puis, ensuite, retour au match couperet dès les 8e. Ouais. Et peut-être que le frisson sera là.
Les stars que vous décriez, vous.
Mais on ne les décrit pas.
Ça vous bouchez le nez quand on vous parle de Messi.
Que c'est un autre projet.
Mais je suis désolé, moi, ils me provoquaient le frisson quand je les voyais sur la pelouse du parc. Peut-être qu'ils ne gagnaient pas, mais au moins, il se passait quelque chose. Là, c'est encéphalogramme plat.
Ça veut dire que une équipe qui ne gagne pas
au moins le foot, c'est du spectacle. Il y avait du spectacle.
Le travail, c'est pour ça que petit à petit.
Ok, non, je reprends la main. Tu voulais dire Pascal, allez, je te laisse.
Non, je disais ça c'est une affaire d'impression, Christophe. Je suis d'accord avec toi. T'aimes les stars, t'aimes les fantaisies sur le.
Je
souscris. Mais tu peux pas me dire. Je pense sincèrement.
Pas tous en même temps.
Cagole de la Côte d'Azur.
Je pense sincèrement
que Kolo Muani est un joueur de qualité.
Moi, je suis d'accord.
Et au Paris Saint-Germain, il pourrait être très utile. Le problème, c'est comme il le fait pas jouer. Le joueur est tout.
Okay.
C'est tout.
On verra ce soir s'il est titulaire. Randal Kolo Muani, c'est à 21h au Parc des Princes face au FC Nantes, de notre ami Antoine Camboire. On verra comment ça se passe et ce sera évidemment à suivre sur RMC.
Il va marquer Kolo Muani, le fameux joueur qui marque en son ancien club.
Pour les paris avec Denis Charvet et toute la Dream Team à partir de midi. Merci pour la passe décisive.
On remercie
Anis d'avoir composé le 32-16. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. On s'en fout pas. Et notamment cette information que j'ai vraiment envie de vous donner. C'est un skipper du Vendée Globe qui a fait livrer un repas pour ses filles. Voilà, je vous explique tout si ça vous intéresse dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. À partir de 10h, le bras de fer des GG. Le tennis a-t-il un problème avec le dopage? On se pose la question après ce contrôle positif d'Igor Swiatek, la numéro 2 mondiale. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Allez, la première à vous donner, c'est un skipper du Vendée Globe qui fait livrer un repas pour ses filles. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Julien Benedetto.
Non, je m'en fous pas, je trouve ça drôle.
Ok.
Oui, je trouve ça drôle aussi.
Ok, on y va. Actuellement, 36e du Vendée Globe, le skipper Fabrice Amedeo a raconté comment il a géré le dîner de ses trois filles depuis son bateau jeudi soir au beau milieu de l'océan Atlantique. On l'écoute.
Voilà la compagnie. Bon, j'en ai une bonne à vous raconter, hein, mais je vous préviens, le mythe du marin solitaire aventurier va en prendre un coup. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est l'antenne Starlink de l'entreprise d'Elon Musk. Il y a 2000 satellites dans le ciel qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une connexion avec la Terre, comme si on était au bureau. Du coup, hier soir, mes trois filles étaient en rade pour dîner parce que leur maman était au tennis. Du coup, mon aîné m'a appelé et du milieu de l'Atlantique Sud, j'ai fait une commande McDo sur Uber Eats et le McDo a été livré à 20h10 à la maison à Vannes. C'est pas dingue, ça?
C'est pas dingue, mais ça te fait pas forcément marrer, Christophe.
Non, moi, l'histoire est rigolote. Il la raconte bien, Fabrice Amedeo. En même temps, il fait la promo d'Elon Musk. Ça me fatigue un peu. Ça casse le mythe.
Ça m'aurait étonné.
Ça casse le mythe. Je suis désolé, mais moi, pour moi, le Vendée, c'est rappelez-vous, Saint-Lys Radio. C'est les mecs au fond des océans. T'entendais à peine la voix, qui montait et descendait en fonction des ondes. C'était un peu le côté aventurier. Tu savais pas exactement ce qui se passait, ni dans quelles conditions ils étaient. Là, aujourd'hui, bah oui, t'es comme au café ou comme à ton bureau, tu peux commander à bouffer pour tes enfants, tu peux regarder des vidéos.
Régler le chauffage de la maison.
Je suis désolé, mais je pense que les marins du Vendée sont, en faisant ça, sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont installés. Ils sont en train de casser le mythe. Aujourd'hui,
qu'on nous dise que ça n'existe pas, que c'est pas possible? Mais c'est évidemment possible.
Mais non,
en 2024, on n'est plus en noir et blanc, Christophe. Et donc, à partir de là, l'évolution est logique, en fait.
Regarde l'intérêt regarde
mais que l'intérêt soit ou pas,
que suscite le Vendée en ce moment, oh, cette année, par rapport aux émissions précédentes.
Ah non,
si toi t'aimes bien ça,
je suis content
un moment. Ils étaient 400 000 au départ.
Depuis, ça a disparu de la
circulaire. Mais non, tous les jours, il y a des points. Tous les 4 ans, c'est toujours pareil, Christophe.
On va rentrer dans les mers du Sud, il va passer des choses.
Mais si les mecs sont
là en disant, je vais commander le McDo pour moi. Tu crois que ça. Tu crois que ça donne envie de suivre les aventures de ces mecs-là? Mais t'es un gros nounours qui aime les McDo, je le comprends.
Mais non, c'est juste vivre avec son temps. Et je trouve que ça plutôt drôle de se dire, ok, je suis sur un bateau, mais je pense quand même à ma famille.
Ouais, voilà.
C'est ça plutôt drôle, c'est sympa.
Il y a ça aussi, c'est que.
Mais t'aimes pas les histoires un peu romantiques, un peu sympathiques.
Moi, j'ai préféré les. Regarde, va écouter, c'était mieux avant que j'ai fait sur Donald Crower. Tu verras ce que c'était que les marins et les aventuriers.
Non, mais c'est autre chose. Ça n'enlève rien.
En 2024,
ça n'enlève rien au fait que ce soit des.
C'était mieux avant.
Ça n'enlève rien au fait que ce soit des. Comment dire des pionniers, des aventuriers extraordinaires. Et que ce qu'ils font, pour moi, c'est comme les alpinistes qui gravissent les plus hauts sommets du monde. Il y a rien de plus dur. Et donc, en même temps, je trouve que
c'est beaucoup d'alpinistes qui commandent des McDo pour leur femme.
Et en même temps, je trouve que oui, enfin, l'Everest, ils partent pas 60-70 jours sur un bateau. Et que quand t'es père de famille et que t'es mari, pendant 60-70 jours, je trouve que c'est bien aussi de montrer qu'ils plantent pas tout le monde et qu'ils pensent pas qu'à eux et qu'ils ont des choses à gérer. Et que là, c'est marrant. C'est sûr que quand il sera au milieu de l'océan Indien avec des creux de 10 mètres, il pourra pas faire ça et sa femme, elle sera là pour gérer le McDo. Mais là, j'ai trouvé l'anecdote assez cool, et ça n'enlève rien pour moi.
C'est très bien, mais t'es pas obligé de le dire parce que tu casses le mythe.
Non, mais casser le mythe, c'est un vrai sujet. En tout cas, ça nous passionne et ça vous divise. Donc, c'était important d'en parler dans cette émission. Pardonne-moi, Pascal, je peux pas te donner la main. Tu m'as dit, je m'en fous. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'équipe de France féminine de hand qui débute l'Euro par une victoire. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Ok, il s'en fout.
T'as le droit, hein.
Il n'ose pas le dire.
Pour l'instant, je m'en fous. Le tour préliminaire.
On verra la demi-finale.
On verra après.
On s'en fout pas.
Moi, je m'en fous. Elles sont en 24.
Et moi, je m'en fous pas.
Ok, ouais. Parfait. Ouais, merci, Pascal. Alors, c'était jeudi soir. Les Bleus, vice-champions olympiques, ont parfaitement négocié leur entrée en lice en battant largement la Pologne, 35-22. Pour valider cette belle entrée, les Françaises ont rendez-vous dès aujourd'hui face à l'Espagne. Ce sera évidemment un choc beaucoup plus difficile pour nos Bleus. On va retrouver justement Arnaud Valadon en Suisse pour cette rencontre. Salut Arnaud.
Salut messieurs et salut uniquement à ceux qui ne s'en foutent pas.
Tu as bien raison mon cher Arnaud.
Déjà,
on suivra cette rencontre avec toi évidemment aujourd'hui Arnaud sur RMC. C'est vrai que ça se passe très bien avec les filles qui même si elles sont vice-championnes olympiques doivent réapprendre à jouer avec un nouveau sélectionneur.
Même si c'est le numéro 2 qui est passé numéro 1, Sébastien Gardillou, mais le staff est effectivement nouveau. Et c'est vrai que la compétition, l'Euro post-olympique, est toujours particulier parce que beaucoup de joueuses font parfois l'impasse. C'est le cas dans d'autres sélections. Mais nos Françaises, elles ont bien joué contre la Pologne, qui est un adversaire modeste, et elles retrouvent les Espagnols que les Bleus avaient joué il y a 8 jours en amical. Elles avaient perdu en déjouant 27-28. Et finalement, se retrouve déjà là où ça compte à l'Euro. Alors le programme de préparation avait été effectué avant le tirage au sort de la compétition et les deux fédérations ont quand même maintenu ce match amical qui avait eu lieu vendredi dernier à Saint-Etienne. Et c'est pas une mauvaise chose pour le sélectionneur et la capitaine Estelle Zeminko, elle nie un esprit de revanche après cette défaite d'un but vendredi dernier.
Moi personnellement, c'est pas la revanche contre elle qui m'anime, c'est celle de nous-mêmes. Je sais que le contexte est différent, que le match est différent. Sur notre capacité à faire un meilleur match, je sais pas si ça suffira parce qu'après c'est le sport.
Et si les Bleus s'imposent tout à l'heure, elles feront un grand pas vers la qualification pour le tour suivant la semaine prochaine qui intéressera peut-être un peu plus Christophe.
Et ben voilà, et on sera là pour suivre toute la compétition sur rmcsport.fr.
Il y a un repu du sport, toi.
c'est à 18h en tout cas cette rencontre France-Espagne. Merci beaucoup Arnaud Valadon, on te retrouve un petit peu plus tard. Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est France-Nouvelle-Zélande qui pourrait être délocalisée aux États-Unis. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je sais plus ce que j'ai dit, je m'en fous pas.
Ouais, tu t'en fous pas, ça m'étonne pas, c'est du rugby quand même.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss, ok, Julien Bennett.
Je m'en fous pas.
Tu t'en fous pas, Pascal Duprat.
Je m'en fous pas, mais tu vas pas me donner la parole.
Bah, non, Pascal.
Non, je m'en fous.
Tu t'en fous, très bien. Hein, oh, il s'est vexé, Pascal. Alors, la Nouvelle-Zélande pourrait délocaliser aux États-Unis un des trois matchs de sa série contre la France. Ce sera à l'été 2025. C'est une information confirmée par Florian Grilla à l'AFP, le président de la Fédération française de rugby. C'était une information de L'Équipe cette semaine. Voici ce qu'il déclare. La demande de la Fédé néo-zélandaise n'est pas finalisée. Il estime que sportivement, eh bien, cette rencontre questionne, mais qu'il y voit un intérêt de promotion en vue de la Coupe du Monde 2031 aux États-Unis. Julien Beneteau.
Moi, je m'en fous pas parce que je trouve dommage et je me mets à la place des joueurs du 15 de France. Tu vas jouer une série de deux ou trois tests en Nouvelle-Zélande. C'est quand même d'aller jouer à Auckland, à Christchurch ou à Wellington. C'est quand même beaucoup plus mythique. Et quand tu vas affronter les All Blacks, que d'aller jouer à Chicago ou à Boston. L'Irlande l'a fait il y a quelques années. Mmh. D'ailleurs, ils sont allés gagner là-bas aux États-Unis. C'était la première victoire de leur histoire contre les Blacks. Je suis sûr qu'elle a pas la même saveur que s'ils avaient gagné pour la première fois sur le sol néo-zélandais. Donc, je comprends. Il faut promouvoir pour la Coupe du Monde, etc. Mais aussi, à mon avis, il y a un intérêt économique.
Il y a du business.
Moi, ce qui me choque plus, c'est qu'on n'enverra pas l'équipe
voilà,
premium
c'est
là-bas.
Ça, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pas une petite revanche de la part de la fédération néo-zélandaise? Ah, vous nous envoyez l'équipe B, l'équipe en développement.
Bah non, on va vous faire voyager.
On va vous envoyer aux États-Unis jouer devant un public qui comprend rien au rugby. Moi, je le vois plutôt comme ça. En tout cas, là, ça a pas l'air de faire sauter au plafond les dirigeants de la Fédération française. Développer le rugby aux États-Unis, c'est un peu comme le foot. Ça fait des années que contente, mais pour l'instant, ça n'a pas.
Il y a une Coupe du Monde. À la rigueur, ça a un intérêt. Oui, mais c'est juste que ce test match, on verra jamais les Dupont & Co aller jouer là-bas en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis.
Développer un sport aux États-Unis qui n'est pas dans leur ADN, c'est très compliqué.
Mais surtout qu'il y a déjà tellement de sports aux États-Unis que c'est difficile d'en augmenter.
Et puis alors, ils n'ont rien à faire du rugby, ils ont le foot américain.
Ils ont le cousin football américain.
Un bon Texan, quand il voit des sangliers comme ça, il doit aimer ça, non? Sur un terrain? Non,
non, avec des sangliers, avec des casques.
Ils auraient des choses à apprendre au football américain sur le rugby, c'est sur la défense et les plaquages. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, les footballeurs américains en défense, ils se font éliminer comme ça alors que les mecs au rugby, ils sont monstrueux.
Je m'attendais pas à cette analyse. Précieux de t'avoir,
c'est très très rare
dans cette émission. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Une autre fulgurance, parce que c'est ton sport. Dans quelques instants, le tennis a-t-il un problème avec le dopage? Oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.